si on ne fait rien, on se plante collectivement. Déclaration d'Alcide Ponga, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui a présenté les objectifs du budget 2025 de la collectivité. Priorité numéro 1, limiter la dépense publique. La province Nord adopte un budget en baisse de 6%. Il se monte à 42 milliards de francs. Si des investissements ont pu être maintenus, c'est surtout la dépense en fonctionnement qui a subi d'importantes coupes. Une affaire d'espionnage inédite en France. Un fonctionnaire de Bercy est accusé d'avoir livré des informations à un agent algérien concernant des opposants au régime du président Tebboune. Explication dans ce journal. À Paris, une rencontre de plusieurs ministres des armées. Sébastien Lecornu a reçu ses homologues allemands, britanniques et italiens. Au menu des discussions, la défense européenne. Le football est plutôt mauvaise nouvelle pour le moment pour Lille en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Le LOSC, qui avait ouvert le score, est désormais mené 2-1 sur sa pelouse par Dortmund. Je rappelle que le vainqueur de la rencontre se qualifiera pour les quarts de finale. La météo en Nouvelle-Calédonie, quelques éclaircies résistent sur le sud-ouest, sinon le ciel est gris. Les températures maximales sont comprises entre 27 et 30 degrés.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une, l'actualité calédonienne.
Oui, avec tout d'abord cette information. Radio Rythme Bleu, Manuel Valls décale de quelques jours son prochain déplacement en Nouvelle-Calédonie. Le ministre des Outre-mer doit se rendre aux Antilles en fin de semaine. Il y sera du 14 au 19 mars. En conséquence, il reporte de quelques jours son déplacement sur le territoire. Manuel Valls reviendra le 29 mars en Nouvelle-Calédonie pour un déplacement de 4 jours. Il restera en principe jusqu'au 1er avril. Dans le reste de l'actualité, je le disais, des économies doivent être faites. Si on ne fait rien, on se plante collectivement. Ce sont les mots du président du gouvernement Alcide Ponga après la séance hebdomadaire de l'institution de la Nouvelle-Calédonie. Hier matin, le texte qui sera présenté vendredi au congrès de la Nouvelle-Calédonie lors du débat d'orientation budgétaire a été adopté à l'unanimité, Lionel Sabot.
Et après deux journées de travail au cours desquelles les membres du gouvernement ont échangé notamment avec les représentants du congrès ou encore ceux des associations de maires de Nouvelle-Calédonie, un texte d'orientation budgétaire a finalement été présenté. Présenté hier matin en séance, voté à l'unanimité, il fixe les objectifs à atteindre pour cette année 2025 et notamment la réduction des dépenses publiques car, et cette information ne surprendra personne, les comptes de la Nouvelle-Calédonie sont au plus bas. Le mois de mai est venu nous enfoncer un peu plus la tête dans l'eau, a déclaré Alcide Ponga. Il faut donc faire des économies selon le président du gouvernement, notamment sur la masse salariale. Il ne s'agit pas, comme il l'explique, de toucher à la rémunération des agents, mais plutôt de réduire le nombre de postes.
On est d'accord sur le fait que nous devons collectivement à un moment donné réfléchir pour réduire la dépense publique aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie parce que nous ne réussissons pas à produire les recettes fiscales en face pour financer nos dépenses publiques. Il y a aujourd'hui des discussions autour des revues sur les renouvellements de postes. Les directions peuvent challenger leur propre organisation pour voir et pas forcément recruter quand il y a un départ. Donc tout ça, il faut qu'il y ait des réflexions. On cible à peu près une centaine de postes cette année. Et il y a d'autres pistes aussi qui vont être travaillées tout au long de l'année. Quand on a aujourd'hui 48% de notre budget principal qui est de la masse salariale, il faut qu'on se pose des questions quand on est des responsables d'institutions. On ne peut pas rester comme ça et puis se dire on va continuer comme ça.
Et si une baisse du point d'indice n'est pas pour l'instant prévue, aucune piste n'est écartée et ajoutée à Alcide Ponga. Toujours concernant le budget de la Nouvelle-Calédonie pour l'année à venir, le prêt garanti de l'État de 120 milliards de francs viendra évidemment soutenir la collectivité. Alcide Ponga espère injecter une grosse partie de cette somme dès 2025.
Mais grosso modo, le prêt, il y a déjà quasiment une bonne partie, presque 50% du prêt, qui servira à la Nouvelle-Calédonie de rembourser les avances de trésorerie et les prêts Covid qui ont été accordés à l'époque. Le reste, il y a un travail qui est élaboré avec le gouvernement national pour voir comment est-ce qu'on peut l'échelonner. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie souhaite qu'une grosse partie de ce prêt soit utilisée en 2025 pour le budget et surtout pour répondre aux défis auxquels on doit faire face sur les questions de chômage, sur les questions de notre réseau électrique, sur les questions des caisses, tous ces comptes sociaux, etc. etc.
Et ce texte sera donc présenté vendredi au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. En marge de ce débat d'orientation budgétaire, les membres du gouvernement ont également examiné un avant-projet de loi du pays relative à l'adoption de diverses dispositions. Elle vise à accélérer ou simplifier les démarches liées au droit du travail, à la protection sociale et à la procédure civile. Christopher Gigès est porte-parole du gouvernement.
Trois dispositifs qui sont importants, qui sont différents les uns des autres, mais un premier qui est une présomption de démission. On a eu des retours de la part d'entreprises, de salariés qui ne venaient plus au travail et que ça impliquait des procédures de licenciement qui étaient compliquées pour les entreprises. Donc cette présomption de démission permettra à l'entreprise de considérer que la personne est démissionnaire de fait. Une deuxième chose où on vient renforcer la question de la carence pour lutter contre l'absentéisme dans le secteur privé. Et enfin des procédures civiles qui sont facilitées, qui sont simplifiées, toujours dans une logique de simplification administrative qu'on a lancée.
Autre mesure prise par le gouvernement lors de cette séance hebdomadaire, les Calédoniens pouvaient auparavant déduire à hauteur de 2 millions les travaux réalisés à domicile. Dorénavant, ils pourront les déduire à hauteur de 5 millions de francs. La liste des travaux déductibles est également élargie, pouvant inclure par exemple les piscines ou les decks, une mesure qui vise à soutenir les patentés qui travaillent à domicile.
Et notez également qu'un questionnaire est diffusé sur le site internet des impôts, une enquête de la direction des services fiscaux à laquelle tous les Calédoniens sont invités à répondre et qui vise à connaître leurs attentes quant à l'évolution de leur fiscalité. Comment améliorer le système fiscal? Les résultats de cette enquête seront communiqués d'ici un mois. Dans l'actualité institutionnelle toujours, les élus de l'Assemblée de la Province Nord étaient réunis hier à Koné et à l'ordre du jour notamment l'examen du budget primitif 2025 de la collectivité. Un budget évidemment largement contraint par les différentes crises qui touchent le territoire lyonnais.
La crise insurrectionnelle, la crise du nickel et leurs impacts sur l'économie, comme toutes les collectivités, la Province Nord n'échappe pas à la règle. Elle a donc établi un budget primitif 2025 à 42 milliards 330 millions de francs. C'est une diminution globale de 6% par rapport à 2024. Dans le détail, 27 milliards 991 millions de francs en fonctionnement et 14 milliards 410 millions de francs en investissement. C'est la partie fonctionnement qui a subi la plus forte coupe budgétaire, de l'ordre de 15%. L'année 2025 connaît encore de nombreuses incertitudes, notamment en ce qui concerne les dotations du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie aux provinces. Valentine Rissouquet, deuxième vice-présidente de la Province Nord.
Comme toutes les collectivités, c'est un budget en 2025 qui est en baisse, au moins des dotations provenant de la Nouvelle-Calédonie qui ne sont pas présentes. Donc un budget de fonctionnement en baisse, par contre un budget d'investissement qu'on a maintenu à la hausse en faisant appel au fonds de roulement de la province nord justement pour pallier au manque de financement au niveau des investissements des collectivités de la Nouvelle-Calédonie et de l'État justement pour maintenir les investissements de la province nord, non seulement en termes du maintien de son patrimoine également des projets de développement dans tous les différents secteur pour accompagner toujours, comme chaque année, la population et le développement. C'est vrai que la baisse, elle concerne essentiellement les projets de participation et d'attribution de subventions de la province nord, chose qui pourra être revue dans le cadre d'une délibération modificative au cas où on a des recettes qui proviennent soit de l'État ou de la Nouvelle-Calédonie.
Et les élus se sont tous accordés sans réel débat sur ce budget, encore une fois contraint dans un contexte instable, comme nous l'a dit Wilfried Weiss du groupe Agissons pour le Nord.
Heureusement que la province Nord avait des réserves, donc ce qui permet quand même de minimiser le coût. Je pense qu'il faudra quand même rester très prudent parce que, comme je l'ai dit, aujourd'hui le gouvernement n'a pas finalisé lui-même son budget, donc on ne sait pas l'atterrissage qu'on aura. Et je crois qu'aujourd'hui la prudence est de mise et comme je l'ai dit, il faut penser que c'est un budget de transition. Parce qu'on ne sait pas comment sera fait 2025, l'année 2025, et quelles sont les recettes fiscales que l'on aura à la fin de cette année. Parce que c'est ça, en même temps, de pouvoir bâtir 2026. Donc c'est pour ça que la province, malgré ses réserves, il faut qu'elle soit prudente pour garder quand même de la réserve pour 2026, parce que pour moi, 2026 sera encore compliqué.
Des propos recueillis par Michael Juneski. Ce budget primitif 2025 a été adopté à l'unanimité des élus de l'Assemblée de la province Nord, hier à Koné.
Dans l'actualité de ce jeudi matin également, cette histoire qui fort heureusement se termine bien. Une fillette a été oubliée lundi dans un bus scolaire à La Foy. Habitante à Farineau, la petite fille de 3 ans se rendait comme chaque matin à son école en transport en commun. Mais ce jour-là, elle n'est pas descendue du bus car elle se serait endormie. Et c'est au moment de la tournée de l'après-midi seulement que le chauffeur aurait constaté la présence de la fillette dans le bus qui, heureusement, allait bien. Le dispositif de la province sud a envoyé un message à ses parents dans la journée pour prévenir de cette absence. Un incident qui a déjà connu un précédent il y a quelques semaines à Boulouparis. En bref, toujours, un homme a été violemment agressé chez lui lundi soir à Saint-Michel. Une dizaine d'individus cagoulés est entré dans son domicile et un coup de couteau a été porté au poignet de la victime. Finalement, les individus ont pris la fuite. On ne sait pas encore pourquoi ces 10 personnes sont entrées au domicile de la victime. Et puis l'agression d'un militaire le week-end dernier, elle a eu lieu en centre-ville de Nouméa. En civil, l'homme a été pris à partie par plusieurs individus. Ils l'ont passé à tabac pour lui voler ses effets personnels. Il a été sérieusement blessé au visage, ce qui a justifié une ITT de 30 jours. Selon nos informations, 4 individus auraient été interpellés et présentés à la justice. En bref, toujours enfin, une alerte requin a été déclenchée hier midi à Lanzvata. Les pompiers et la police municipale ont été dépêchés sur place pour une reconnaissance nautique et par drone. La baignade a été interrompue pendant 2 heures, le temps des recherches. À l'issue, aucun signalement de squale n'a été confirmé.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et avant de refermer cette page, c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Êtes-vous favorable au déplacement des vols Aircal de Magenta à Tontouta? Si vous y êtes favorable, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. La réponse à la question d'hier maintenant, 75% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS estime qu'il faut instaurer de nouvelles restrictions à la vente d'alcool sur le territoire. Ils sont 25% à être d'un avis contraire. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. Et on termine avec vos rendez-vous sur l'antenne de Radio Rythme Bleu. En 2024, la consommation d'électricité a fortement baissé sur le territoire. C'est en grande partie en raison de la situation industrielle, fermeture de KNS, fort ralentissement de la SLN et plusieurs mois sans production chez PRNC. La consommation des particuliers est aussi en recul avec de nombreuses résiliations d'abonnements. Alors, quelles conséquences pour le réseau électrique? Nous en parlerons dans le détail ce matin avec Jean-Gabriel Faget, le directeur général d'Enercal, qui sera en effet notre invité à 7h30. Et puis, l'économie calédonienne est dans une situation tendue. C'est ce que souligne la CCI dans sa dernière enquête menée auprès de ses adhérents sur l'évolution de l'impact des émeutes de mai 2024. Et elle est profondément affectée et confrontée à une absence de perspective. C'est ce que note de son côté l'IEOM dans sa note conjoncturelle du dernier trimestre pour 2024. Une situation dont nous parlerons à midi dans les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Jean-François Baudin recevra David Guyenne, le président de la CCI. Stéphane Renaud, directeur de l'Institut Queen Novi, qui a réalisé l'enquête pour la Chambre de commerce et d'industrie. Fabrice Dufresne, qui est le directeur de l'IEOM. Et Christophe Dautieu, qui est co-gérant de l'entreprise de BTP ACTB. En attendant, il est 6h passées de 43 minutes. Vous écoutez Radio Rythme Bleu. On va marquer une première pause dans ce journal avant de voir l'actualité en métropole et dans le monde. Et on commencera par cette affaire d'espionnage en France, puisqu'un fonctionnaire du ministère de l'Économie et des Finances est soupçonné d'espionnage au profit de l'Algérie.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Accueil détendu, équipe dynamique, toujours un sourire au Bilboquet Plage.
En tête-à-tête ou avec des amis, toujours de la place au Bilboquet Plage.
De la simple salade au saumon fumé, toujours un grand choix au Bilboquet Plage.
Du soleil de midi aux 12 coups de minuit, toujours nous servons au Bilboquet Plage.
Au Palm Beach à Lanzvata, face aux îlots, Bilboquet Plage, un plus pour le week-end.
Vous êtes professionnel ou étudiant en santé et vous souhaitez comprendre et intégrer les savoirs traditionnels dans les systèmes de soins? L'Université de la Nouvelle-Calédonie vous propose des formations en ethnomédecine, soins traditionnels et pharmacopée des cultures océaniennes pour vous doter d'une expertise unique et répondre aux enjeux de santé en incluant les savoirs locaux. Formation éligible à une aide de l'État. Infos et inscriptions sur le site unc.nc ou au 290-490.
RRB, 6h-8h, Nicolas Legrand.
La suite du journal est, je le disais, cette affaire d'espionnage inédite en France. Une affaire sur fond de tensions diplomatiques entre Paris et Alger. Un fonctionnaire du ministère de l'Économie et des Finances est en effet soupçonné d'espionnage au profit de l'Algérie. L'homme a été mis en examen car il aurait envoyé des données confidentielles sur des opposants au régime du président Tebboune à un espion algérien. Jean-Baptiste Marty pour Europe 1.
Tout commence par un signalement en mai 2024. Un fonctionnaire du ministère de l'Économie et des Finances, chef d'un service sensible, enverrait des informations information confidentielle à un mystérieux contact. La DGSI prend alors l'affaire très au sérieux. Il est interpellé le 3 juin. La téléphonie de l'homme de 56 ans est analysée. Les policiers découvrent que de multiples fichiers confidentiels auxquels il avait accès ont été envoyés à un autre homme. Parmi les informations échangées, des noms et des adresses d'opposants au régime algérien et vivant en France. Après des mois d'enquête, les agents de la DGSI finissent par identifier le correspondant. Il s'agit d'un espion algérien basé en France et qui collectait les informations sous couverture diplomatique. Il est actuellement recherché. La DGSI identifie également une complice, une employée de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La femme de 46 ans aurait également transmis des informations confidentielles. Le fonctionnaire de Bercy et la femme sont mis en examen pour violation du secret professionnel, mais aussi pour intelligence avec une puissance étrangère. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire.
Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. En bref, une fusillade sur l'autoroute A41 entre Grenoble et Chambéry. Un homme au volant d'une BMW a été pris pour cible par des hommes se trouvant dans une Mégane RS qui ont tiré avec une Kalachnikov. La victime est un ancien parrain de la pègre grenobloise des années 80. Il s'agit de Jean-Pierre Maldera qui est décédé dans cette attaque. Il était connu pour association de malfaiteurs, proxénétisme aggravé et racket. Et son nom était aussi cité dans plusieurs règlements de compte sanglants. Dans l'actualité internationale maintenant, Donald Trump envoie des émissaires américains à Moscou. Ils sont attendus dans les prochaines heures. Il espère que Vladimir Poutine acceptera l'accord de cessez-le-feu négocié hier en Arabie Saoudite avec l'Ukraine. Les choses s'accélèrent selon le président des États-Unis. Le Kremlin, de son côté, dit attendre les propositions de Washington avant toute déclaration et affirme qu'une éventuelle trêve devra prendre en compte les avancées russes. Et même si l'accord trouvé hier entre les États-Unis et l'Ukraine prévoit que Washington revienne sur sa décision de suspendre l'aide militaire à Kiev, l'Europe s'organise. L'hypothèse d'un arrêt de l'aide américaine pousse les 27 à accélérer sur le dossier de l'Europe de la défense. Cette nuit pour nous, Sébastien Lecornu a reçu ses homologues allemands, britanniques et italiens. Écoutez le ministre des Armées.
Quelques urgences sont à traiter. Ce sont des urgences sur lesquelles nous souhaitons les traiter avec les différents pays voisins et en tout cas à minima avec ce format ici rassemblé. Le premier, c'est évidemment la défense sol-air. C'est un des éléments importants du retour d'expérience, non seulement de la guerre en Ukraine, mais aussi de ce qui se passe au Proche et au Moyen-Orient. Cela vaut pour le haut du spectre jusqu'à la lutte anti-drone. Cela vaut pour les menaces étatiques comme pour les différentes menaces terroristes. Et donc, on le voit bien là, qu'on doit complètement repenser une partie de l'architecture de défense sol-air du territoire européen. Des initiatives capacitaires sont sur la table. Elles sont parfois complexes, mais on le sait, elles sont trop longues et le rythme est beaucoup trop lent. Et donc là aussi, nous avons discuté de la manière dont nous pouvons accélérer les différentes initiatives.
À Sébastien Lecornu, le ministre des Armées. Toujours concernant les relations entre les États-Unis et l'Europe, le dossier des droits de douane est de nouveau sur la table. À partir du 1er avril, l'Union européenne va riposter aux taxes américaines de 25% sur l'acier et l'aluminium. Les précisions de Barthélémy Philippe pour Europe 1.
Oui, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a fustigé dans la nuit les taxes américaines mauvaises pour les affaires et encore pire pour les consommateurs, a-t-elle prévenu. L'Europe compte riposter en deux temps. D'abord, le 1er avril, en réactivant les droits de douane sur les produits déjà visés en 2018, lors du premier mandat de Donald Trump. Ils vont toucher des produits symboliques comme les Harley Davidson, le bourbon ou les jeans, mais aussi des produits agricoles comme la viande, les céréales ou le soja, avec toutefois un impact quasi inexistant sur le portefeuille des consommateurs européens, explique Thomas Graffanino, expert commerce chez SIA Partners.
La majorité des produits aujourd'hui est produit sur le sol européen et les marques, même américaines, ne seront pas soumises à la hausse des droits de douane.
Le deuxième acte de la riposte mi-avril sera beaucoup plus massif. L'Union européenne prévoit de taxer des centaines de produits américains pour les renchérir de l'ordre de 26 milliards d'euros, l'équivalent de l'impact estimé sur les ventes d'acier et d'aluminium aux États-Unis. Seule certitude à ce stade, les importations stratégiques comme le gaz naturel et le pétrole américain ne seront pas touchées par ces droits de douane.
Et enfin, Cyril Hanouna va porter plainte contre la France Insoumise, LFI qui a caricaturé l'animateur sur une affiche d'appel à manifester contre l'extrême droite. Une affiche qui reprend en fait les codes de la propagande antisémite des années 40. Selon la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, LFI recycle l'iconographie anti-juive. Le président du CRIF ajoute qu'il n'y a pas besoin de beaucoup connaître l'histoire pour savoir que cette iconographie est typiquement antisémite. Écoutez la réaction de Cyril Hanouna.
Ah non, mais quand j'ai vu l'affiche, déjà, j'y croyais pas. Je pensais que c'était une blague. Mmh. Je pensais que c'était Logographie. Et en fait, non, c'était une vraie image. Après, j'ai vu qu'elle avait commencé à tourner. Ce qui est extrêmement gênant là-dedans, c'est qu'ils ont caricaturé mon visage. Donc, on sait à quelle fin ils l'ont fait. Et ça devient extrêmement, quand même, embarrassant ce qui se passe au niveau de la LFI. Ils vont de plus en plus loin. Ils sont très dangereux.
Et depuis ce tollé, la France Insoumise a retiré cette caricature de ses réseaux sociaux. Autre polémique qui concerne là aussi la France Insoumise, elle a invité un collectif proche de la mouvance islamiste à l'Assemblée nationale. Le collectif contre l'islamophobie en Europe n'est autre qu'une branche de l'ancien CCIF, dissous en 2020 par Gérald Darmanin, après avoir été impliqué dans l'assassinat de Samuel Paty, comme l'a rappelé le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui parle d'une provocation des Insoumis. Il est 6h51, vous écoutez Radio Rythme Bleu, on va marquer une nouvelle pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité en Nouvelle-Calédonie.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
Ça y est, c'est la rentrée. Nouveau cahier, nouveau défi. Et toujours Milo pour t'accompagner dans ton aventure. Au petit déjeuner ou au goûter, Milo, c'est l'énergie qu'il te faut. Parce qu'avant ou après une journée bien remplie, ton Milo, c'est sacré. Un bon chocolat Milo et c'est reparti. Milo, ton allié pour une rentrée de champion. Bonne rentrée à tous.
Milo, l'énergie des champions.
Ah, ces assurances. J'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Info matin, la suite de l'actualité sur le territoire, on retrouve Nicolas Legrand.
Et les rendez-vous du congrès qui ont repris hier soir. Et pour l'occasion, les femmes résilientes et inspirantes étaient à l'honneur. L'événement a rassemblé plusieurs intervenantes au parcours atypique qui ont pu échanger avec le public venu en nombre. Quatre thématiques ont notamment été abordées. La femme au quotidien, la culture et l'identité, la lutte contre les violences faites aux femmes et l'indépendance financière des femmes. Moins d'une semaine après la Journée internationale des droits des femmes, c'était l'occasion pour la présidente du Congrès, Velma Falaeo, de rappeler l'importance de donner l'exemple aux Calédoniennes au travers des parcours inspirants.
Je trouvais qu'en tant que première femme portée à la présidence du Congrès, c'était une belle thématique pour relancer les rendez-vous du Congrès. La thématique, elle dit bien, c'est femmes inspirantes et résilientes. L'idée, c'était aussi de mettre à jour les difficultés qu'elles ont pu avoir dans leur parcours et comment elles ont réussi à les surmonter. Et je pense que c'était l'occasion aussi de lancer un message d'espoir à toutes ces jeunes filles qui se lancent dans la vie active ou dans différentes activités et leur dire qu'en fait, quand on y croit, quand on veut, on peut et qu'il faut croire en ses rêves. Après, la réflexion pourra être menée avec la présidente de la commission. Je pense qu'il faudra, en particulier peut-être sur les violences faites aux femmes et les violences intrafamiliales, voir quelles sont les pistes de réflexion, les propositions à mettre en place.
Et parmi les 6 femmes invitées qui sont intervenues hier soir, Frédérique Barrière, elle est médiatrice scientifique et présidente de l'association La Fée des Sciences.
Alors c'est assez flatteur en fait de se faire contacter dans le cadre d'un rendez-vous du congrès sur les femmes résilientes et inspirantes. Moi je suis issue du milieu scientifique, donc la résilience c'est quand on doit rebondir suite à une catastrophe. Donc oui, on a su rebondir au niveau de la Fée des Sciences et j'espère être inspirante pour d'autres jeunes puisque moi dans ma jeunesse j'avais pas trop de modèles auxquels me raccrocher, puisqu'au contraire, je raconte souvent cette anecdote-là. Ma grand-mère, en fait, me dissuadait de faire des études scientifiques, puisque je m'intéressais au sol et aux vers de terre, et j'entendais souvent les vers de terre quand même, Frédéric. Ça va pas. Très peu de femmes arrivent à obtenir des postes importants en sciences, et donc on n'a pas beaucoup de modèles auxquels on peut se raccrocher.
Frédéric Barrière qui anime également, vous le savez, l'émission Allons Enfants chaque semaine sur Radio Rythme Bleu. Et enfin, les hôpitaux manquent de sang. L'association des donneurs de sang bénévoles de Nouvelle-Calédonie lance un appel. Les groupes O- et O+ sont particulièrement recherchés en ce moment. Les niveaux sont au plus bas, comme l'indique Gérard Joyot, le président de l'association.
Effectivement, aujourd'hui, l'appel qu'on lance, il est urgent, même très très urgent. Les stocks du groupe O+ et O- ont rarement été aussi bas. Donc on demande à tous les donneurs, ou toutes les personnes, au plus ou moins, de venir donner leur sang, parce que c'est vital. Hein. Donner son sang, c'est sauver des vies. Une poche de sang, on peut sauver 3 vies, mais parfois, pour sauver une vie, il faut plusieurs poches de sang. Alors, il faut avoir plus de 18 ans, il faut faire plus de 50 kilos, il faut être en bonne santé. Donc, il y a des petites contre-indications, surtout pour les jeunes. Mais si on est en pleine santé et qu'on n'a rien fait de particulier, on peut se présenter au centre du don du sang. Alors, pour aller au centre du don du sang, il n'est pas nécessaire de prendre rendez-vous. C'est souhaitable, comme ça on passe tout de suite. Si on ne prend pas rendez-vous, on passe un temps.
Le centre du don du sang est situé au pied de l'immeuble Pacific Arcade à Nouméa. Il est ouvert du lundi au jeudi de 7h15 à 14h et le vendredi de 7h15 à midi. Je rappelle que la prise de rendez-vous peut se faire au 055 100, le 055 100, ou alors sur le www.dondusang.nc. Il est 6h55, vous écoutez Radio Rythme Bleu. On marque une dernière pause publicitaire avant de voir toute l'actualité sportive en compagnie de Lionel Sabot. On parlera notamment de football avec la fin ce matin des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions et notamment Lille qui jouait contre Dortmund.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Prêt à prendre le volant d'un Mitsubishi Triton ? Avec Nestlé, tentez de remporter ce 4x4 exceptionnel jusqu'au 30 avril.
Il vous suffit d'acheter deux produits Nescafé, Milo, Magie, KitKat, Sunshine, Chocapic ou Friskies. Notez vos coordonnées au dos de votre ticket de caisse et déposez-le dans les magasins participants. Jouez aussi en ligne sur www.jeunestlé.nc/voiture.
Et pour jouer gratuitement, rendez-vous chez Nestlé. Règlement disponible chez Maître Citrita.
Vous voulez faire une pause ou simplement vous détendre? Le Ramada Sports Bar innove avec son menu piscine du lundi au samedi de 9h à 16h. Au tarif incroyable de 4000 francs par adulte et 2000 francs par enfant. Renseignements au 23 90 41, info Facebook Sports Bar.
RRB, première radio d'information.
L'actualité sportive et on retrouve toute l'équipe.
Et le sport, et c'est d'abord du football avec la fin des huitièmes de finale, retour de la Ligue des Champions. Et tous les regards étaient tournés tôt ce matin pour nous vers le stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq où Lille recevait les Allemands du Borussia Dortmund. Et malheureusement, ça s'est mal passé.
Hein. Oui, malheureusement, il n'y aura pas un deuxième club français en quart de finale de la Ligue des Champions. Vous le disiez ce matin, les Lillois recevaient Dortmund devant leur public. Au match aller, les deux équipes avaient fait match nul, un but partout. Si les hommes de Bruno Genesio ont très rapidement ouvert le score par Jonathan David, les Dogs ont perdu le fil de la rencontre au fil des minutes. Face à une équipe plus expérimentée à disputer ses grands matchs de Coupe d'Europe. On va rappeler tout de même que l'an dernier, Dortmund avait disputé la finale de la Ligue des Champions. Les Lillois se sont donc éteints progressivement et ce qui devait arriver est arrivé. Les Allemands ont égalisé sur un pénalty d'Emre Can, puis ils ont pris l'avantage sur une réalisation de Maximilian Behrer. Dortmund s'impose finalement 2-1 et se qualifie pour les quarts de finale. Les quarts de finale lors desquels les Allemands affronteront le FC Barcelone. Les trois autres matchs de ces huitièmes de finale retour de Ligue des Champions vont débuter d'ici quelques minutes. Ce sera à partir de 7h. Aston Villa recevra le club de Bruges. Match important car le vainqueur de cette rencontre affrontera le PSG en quart de finale. À suivre encore Arsenal-PSV Eindhoven. Les joueurs d'Arsenal s'étaient imposés 7-0 au match aller. Et l'Atlético Madrid recevra le Real Madrid. Duel entre Griezmann et Mbappé en perspective.
Le sport, c'est aussi du cyclisme, Lionel, puisqu'on courait cette nuit la quatrième étape du Paris-Nice, 163 km entre Vichy et la Loge des Gardes dans l'Allier.
Oui, une étape qui a été quelque peu agitée, c'est bien le moins qu'on puisse dire. En effet, la course a dû être neutralisée à la suite d'un orage avec de la grêle, s'il vous plaît, qui s'est abattue sur l'ensemble du peloton. Les coureurs ont roulé très lentement derrière la voiture du directeur de course sur une chaussée totalement détrempée pendant plusieurs kilomètres. La course a été relancée à 28 km de l'arrivée. Au final, c'est le Portugais João Almeida de la formation Team Emirates qui s'est imposé. Il a devancé d'une seconde le Danois Jonas Vingegaard de la formation Visma Leasebike et de deux secondes le Danois Mathias Solmos Jensen de la formation Lidl Trek. La quatrième place de cette étape pour le Français Lenny Martinez de la formation Lidl qui termine lui aussi à deux secondes de João Almeida. Au classement général, le Danois Vingegaard endosse le maillot jaune de leader. Il devance de 5 secondes, son coéquipier américain Jergensen. La troisième place pour le Danois Jensen qui pointe à 33 secondes du leader. Lenny Martinez, premier français au classement général, pointe à la 9e place avec 1,09 de retard sur Vingegaard. Demain, 5e étape, 203 300 km entre Saint-Just-en-Chevalet dans le très beau département de la Loire et la Côte-Saint-André dans l'Isère. La Côte-Saint-André qui est au passage la ville natale d'Hector Berlioz. Rien à voir avec le cyclisme.
Un mot de sport. en Calédonie avec du cricket et la suite du tournoi international féminin qui se joue sur les terrains de Ndu. Hier, l'équipe de France, qui est composée uniquement de joueuses calédoniennes, s'est de nouveau inclinée. Et défaite 33-32 face aux Samoa. Dans l'autre match de la journée, le Vanuatu s'est imposé 121-83 sur les Fidji. Aujourd'hui, à 8h30, l'équipe de France rencontrera Fidji.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et le temps, c'est avec vous Thierry.
Oui Nicolas, ce matin sur l'ouest, le ciel sera souvent voilé par des nuages altitude. Ailleurs, il sera très nuageux ou couvert avec des averses éparses qui toucheront l'extrême nord, l'est, l'extrême sud. Et les loyautés, le vent lui orienté est pour ce matin entre 10 et 15 nœuds, localement sur la pointe nord et belé proche des 20 nœuds, avec des rafales prévues jusqu'à 30 nœuds environ. Sur l'ouest, il restera faible à l'abri de la chaîne, mais des accélérations sont possibles entre 10 et 15 nœuds dans certaines vallées. Cet après-midi, quelques éclaircies résisteront sur le sud-ouest, sinon le ciel restera gris. Le risque averses est présent sur l'ensemble du territoire, mais c'est sur l'est et l'extrême sud où VA il est fou que les averses seront les plus nombreuses. Sur le nord-est, la pointe nord et Belép en parle du vent à présent. Il sera orienté est-sud-est pour cet après-midi, 15 à 20 nœuds. Sur l'ouest, des brises de sud-est s'établiront entre 10 et 15 nœuds, localement sur le sud-ouest, 15 à 20 nœuds. Les températures pour aujourd'hui entre 27 et 30 degrés en général.
Toute l'info en trois lettres, RRB.